Vous écoutez Radio Campus Paris et ce soir dans la bouquinerie jeunesse, nous allons parler de notre chère capitale française qui héberge le studio, Paris.
Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
Ah, Paris, la ville des amoureux, de la Tour Eiffel et de Victor Hugo. Elle en héberge des fantasmes, notre chère capitale. Et si ceux qui l'habitent rêvent souvent de la quitter, ceux qui en vivent loin aspirent parfois à la découvrir. Qu'on l'aime ou qu'on la fuit, Paris reste une ville riche d'histoire et de culture. La capitale française est aussi, depuis toujours, une source d'inspiration pour les artistes et entretient un lien étroit avec eux. Paris inspire, et sans surprise, elle inspire aussi les auteurs de littérature jeunesse. Pour cette émission, je suis avec Christelle, parisienne depuis...
Depuis 8 ans à peu près.
Nathan, parisien depuis...
Depuis 2 ou 3 ans.
Et Léa, parisienne depuis...
Je suis en train de compter dans ma tête, c'est une grosse stress, j'aime pas les chiffres. Mais depuis un bon moment, hein, je suis arrivée en 2013-2014. Enfin, j'ai commencé vraiment à vivre ici en 2015, mais j'ai fait des stages j'étais parisienne par intermittence et je le suis devenue vraiment en 2015.
Le Paris dont nous allons parler avec notre invité n'existe pas. C'est un Paris inventé, mais qui aurait pu exister dans une autre réalité. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Lucie Pierre-Apageot, l'autrice des Mystères de l'Arispem chez Gallimard Jeunesse. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes venue à Paris ?
Pas du tout, moi je pense que j'y suis venu, j'ai de la famille qui habite plutôt en banlieue de Paris, donc je pense que j'y suis venu plusieurs fois en vacances avec mes parents pour aller faire les musées, se balader et tout, mais alors je me rappelle pas du tout c'était quand ni comment j'ai trouvé la première fois, mais je pense que c'était quand même une ville qui, quand on y allait c'était pour voir des musées, je me rappelle qu'une fois on était venu, on avait fait le Fun Park Playmobil, pour moi Paris du coup c'était je pense celle de quelqu'un qui n'habite pas et qui vient en vacances, c'était une belle ville avec plein de trucs dedans quoi.
Christelle.
Moi, quand j'étais petite, je venais à Disney surtout, pas tellement à Paris. Non, la première fois où vraiment je me rappelle être venue à Paris, c'est quand j'avais 15 ans. L'été de mes 15 ans, je crois, on était venus avec mes parents. Et j'étais là, waouh, tout était trop beau. Moi, j'étais là à Antibes, je m'emmerdais, il n'y avait rien à faire. Je voulais trop aller à Paris, la grande ville. Pour moi, c'était la ville de Louis Aragon et tout, qui était un peu mon âme sœur. Ouais, j'avais des gros fantasmes.
Léa.
Moi, en fait, j'ai des souvenirs très très lointain de Paris parce que d'ailleurs c'est un lointain rapport avec ma chronique, c'est marrant, mais quand j'étais petite je voulais être égyptologue, j'étais fascinée par l'Égypte antique, vraiment je ne faisais que ça, je lisais la biographie de Champollion, j'étais psychopathe, je passais mes journées à regarder des documentaires sur les pyramides et tout, et en fait ma mère m'encourageant dans cette passion avait voulu me faire visiter le musée du Louvre, donc je devais avoir 7 ou 8 ans et elle m'avait emmenée faire toutes les galeries et mon premier souvenir de Paris c'est le Louvre en fait, c'est les galeries égyptiennes et j'étais refaite. Voilà.
Moi, j'ai un souvenir assez clair de ma première fois à Paris également. C'était, je me souviens, j'étais assez petite. C'était la toute première fois de ma vie où je prenais le train. Et en fait, et je crois que mes parents nous avaient pas trop dit ce qu'on faisait vraiment. Enfin, ils nous avaient emmenés, voilà, avec mon frère. Ils nous avaient mis dans un train et j'ai l'impression que j'étais à la fois fascinée et terrifiée déjà par ça, par le train. Puis à l'époque, c'était Bordeaux-Paris, c'était 4 heures. Enfin, c'était pour quand t'es un enfant, c'est long. Enfin, voilà. Et après, je me souviens de la pyramide du Louvre. Je ne pense pas qu'on soit rentré dans le musée, mais je me souviens de la pyramide qu'on avait vue et tout ça. Donc, je m'en souviens aussi un petit peu.
Mais moi, le train, tu vois, pour le coup, pendant longtemps, pour moi, Paris, ça a été le salon du livre de Montreuil. Parce que j'y vais depuis mes 11 ans. C'est ma mère qui nous avait amené, mon frère et moi, à Montreuil. C'était en 2008. Elle nous avait dit, on va au salon du livre de Montreuil. Et du coup, tous les ans, on partait tous les deux avec ma mère. Enfin, mon frère, ma mère et moi. Et on prenait le train, moi je sais pas pourquoi mais j'adorais le train, je pense qu'il y avait à la fois le mélange d'excitation de c'est pour aller à Montreuil, en même temps je sais pas, je trouvais ça trop bien le train, et du coup pendant longtemps ça a quand même été tous les ans aller à Montreuil, du coup Paris c'était le salon du livre jeunesse de Montreuil qui était un endroit totalement dingue comme on le sait très bien, et je pense que pendant assez longtemps je l'ai pas mal associé à ça, et de manière générale au monde de l'édition.
Alors moi j'avais pas le droit, je voulais rêver d'aller à Montreuil mais j'avais pas le droit, mes parents m'avaient dit tant que t'as pas 18 ans, non. J'ai eu 18 ans en octobre. Montreuil était en novembre. J'y suis allée mais direct, dès le premier, tu vois. Genre 18 ans, un mois, paf, j'étais déjà à Montreuil. Et après, ça a été aussi vachement associé à ça, effectivement, et à l'édition.
Moi, en fait, j'ai une autre histoire marrante sur Paris. C'est que moi, mes souvenirs de Paris ne sont pas spécialement liés au monde de l'édition. C'est que j'avais une de mes tatas qui habitait rue Saint-Georges, juste en bas de Montmartre. Et quand j'avais 14-15 ans, j'allais la voir. Et à l'époque, je me rappelle que ma tata m'avait dit un peu des étoiles dans les yeux. Ah là là, Léa, toi qui aimes tant les livres, toi qui sais si bien en parler, je suis sûre que plus tard, tu vivras ici et que tu feras peut-être du journalisme. Et moi, j'étais là, non, jamais de la vie, je vivrai à Paris. Les gens, ils sont tous snobs, c'est sale, ça sent mauvais. À part les musées, il n'y a rien de bien, jamais. Et me voilà aujourd'hui ici, derrière ce micro, à vous parler de livres. Et voilà, je fais un big up à ma tata qui écoute cette émission, je le sais. Et, et qui va beaucoup rigoler en m'entendant dire ça.
Elle savait déjà tout. Qu'est-ce que vous aimez à Paris, du coup, et qu'est-ce que vous n'aimez pas, Nathan ?
Tu vois, je me suis pas mal retrouvée dans l'intro que t'as faite quand t'as dit « Les gens qui n'y vivent pas veulent y vivre » parce que j'ai longtemps rêvé d'en vivre et les gens qui y vivent veulent en partir. Ce que j'aime pas, moi, c'est... je trouve que c'est une ville fatigante, en fait. Tout va vite, les gens, en effet, sont assez snobs. On a beau dire, je trouve que beaucoup de Parisiens sont méchants. et je trouve que même la pollution, c'est étouffant, enfin, tout ça, quoi. Et après, ce que j'aime, je pense, comme nous tous autour d'ici, c'est le livre, tout ce qui se passe, tous les événements, la culture, le fait de pouvoir faire une émission de radio ensemble, le fait de pouvoir aller à des dédicaces, des soirées de lancement, des salons du livre, tout ça, quoi. Enfin, c'est quand même une ville où... en tant que lecteur, on est trop comblé.
Christelle, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Nathan. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fantasmé vraiment sur Paris. Pour moi, c'était la ville idéale. Je sais pas, c'était Foncombe, la ville de la culture où enfin j'allais quitter les pecnos et trouver enfin des gens qui comprenaient mon amour de l'art et tout.
Faut que t'ailles faire l'émission Le Snob d'un autre, toi.
Et ouais, quand j'étais jeune, j'avais cette espèce d'idéalisme. Et puis je suis arrivée à Paris et voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que de toute façon, les gens ne te parlent pas. Donc non, ce qui était très dur quand je suis arrivée à Paris, c'est vraiment les gens qui ne te parlent pas. Moi, j'étais à la Sorbonne, dans un amphi, on n'était que 20, puisque c'était sciences du langage et que personne ne peut faire de sciences du langage. Et pourtant, pas une seule personne m'a parlé de toute l'année en amphi. Voilà, c'était hyper dur à ce niveau-là. Après, moi, j'ai envie de partir de Paris, évidemment, mais je sais que le jour où je partirai, je serai très malheureuse. Parce que, comme l'a dit Nathan, il y a plein de choses. Puis après, au bout de 8 ans, quand même, j'ai tous mes amis ici, j'ai ma vie, c'est chez moi, en fait. Ce que j'aime aussi à Paris, c'est de pouvoir être touriste dans ma propre ville. Franchement, moi, je me lasse pas. Je sais qu'il y en a plein qui disent « Oh, tu veux encore voir l'opéra, espèce de touriste ?» Bah ouais, mais en attendant, si tu profites pas de ça, tu vois que les côtés négatifs de Paris, tu vois que le métro, tu vois que ton petit trajet quotidien. Et moi, j'adore aller dans les quartiers touristiques et me rappeler à quel point c'est une belle ville, vraiment. Oui. Je me lasse pas de passer sur le pont à Saint-Michel et de voir à droite le Grand Palais, la conciergerie de l'autre côté. Enfin, vraiment, je trouve ça magnifique. Et je sais que ça, pour le coup, le jour où je partirai, ça me manquera.
C'est vrai, quand tu passes sur ce genre de pont, tu retrouves une espèce d'émerveillement enfantin. Ouais. Ah, c'est comme si c'est la première fois que tu le voyais, quoi.
Mais on s'en lasse pas, en fait.
Ouais, moi, je suis d'accord avec vous deux. En vivant ici tous les jours, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une des plus belles villes du monde. Mmh. Ce qui est le cas, c'est un véritable millefeuille d'histoire, Paris, des catacombes jusqu'au sommet des clochers. Et je me lasse pas de faire des tours, genre découverte d'un quartier secret avec des historiens de l'art, des gens passionnés qui te font découvrir les moindres secrets. Chaque mur a une histoire, chaque pierre a une histoire. Enfin, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et ouais, pour avoir fait être passionné d'histoire, de littérature, c'est un vrai plaisir de vivre ici au quotidien. C'est un vrai plaisir de pouvoir sortir le soir et faire la fête ou aller à une soirée de lancement littéraire ou ce genre de choses. Et même si c'est vrai que Paris n'est pas une ville très verte, c'est quand même pas trop compliqué de prendre le RER et d'aller en banlieue et d'aller faire des balades dans la nature. Donc malgré qu'on présente Paris parfois comme un endroit un peu cauchemardesque, je pense qu'il suffit d'un peu de volonté, de débrouillardise pour pas être enfermé par les aspects négatifs de la ville, en fait.
Ouais, bah vous avez tout résumé. Hein, non, mais voilà, je n'ai plus rien à dire. Je suis contente de vous entendre dire que vous aimez cette ville, parce que j'ai quand même l'habitude dans mon quotidien, que ce soit au travail ou autre, de côtoyer quand même beaucoup des gens qui sont dans ce truc de je veux en partir et qui, pour moi, ne se rendent pas compte. Enfin, moi qui n'y ai pas vécu toute ma vie. Et pareil, j'étais comme toi, Christelle. Hein, je rêvais de venir ici et tout. Et moi, j'ai pas eu trop comme toi, en revanche, le paf, prends-toi ça dans ta face, la vérité, enfin, la réalité, c'est ça. je suis encore toute dans la phase, oh là là, c'est trop beau, qu'est-ce que tout, ça m'arrive encore, là encore en venant ce matin, on passe par la Bastille et tout, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être ici, quoi, qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre mon rêve, c'est ce que je voulais, enfin... Donc voilà, moi j'adore cette ville et je suis contente d'entendre que vous l'aimez aussi.
Mais je pense que tu as plus de gens qui n'y vivent pas, qui ont envie d'en partir. Que... Enfin, moi je connais des gens qui ont toujours vécu à Paris depuis qu'ils sont nés. Et eux, pour le coup, ils sont bien à Paris. Enfin, ils sont habitués à ça depuis toujours, quoi. Donc ils n'ont pas forcément, je sais pas, cette sensation d'étouffement, cette sensation de ne pas parler avec les gens. Enfin, ça, c'est leur vie depuis toujours, quoi. Donc eux, ils ont plutôt envie d'y rester, j'ai l'impression.
Paris rêvé. Imaginaire, scène de crime au carrefour des possibles, on parle de Paris sur Radio Campus Paris.
La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
Les mystères de Larry Spem, c'est la trilogie de notre autrice invitée publiée chez Gallimard Jeunesse. Peut-être que vous ne voyez pas d'emblée le rapport avec Paris, et pourtant il est dans le titre. Et oui, car les personnages du roman parlent l'argot des bouchers. Et Paris, en argot louchébème, ça se dit larispème. Alors, pour parler le louchébème, c'est facile. Vous prenez la première lettre d'un mot et vous la mettez à la fin. Donc ça donne arispe. Ensuite, vous ajoutez un L devant, larispe. Et vous ajoutez le suffixe de votre choix, uch, s, m, et ça donne larispème. Nous partons donc à la découverte de l'arispème avec Lucie Pirat-Pajot. Écoutez. Nous profitons de Livre Paris, le salon du livre de Paris, pour recevoir Lucie Pirat-Pajot, qui, même si elle écrit sur Paris, un Paris imaginaire, nous allons y revenir, n'y habite pas.
Non, effectivement, je suis totalement provinciale, puisque j'habite à Auxerre.
Alors Lucie, vous êtes l'autrice des mystères de l'arispème. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est une uchronie en 3 tomes qui sont sortis entre 2016 et 2018. La série est terminée, ce qui va être l'occasion de revenir ensemble sur cette belle aventure. Je propose que nous commencions par disons, le contexte de la sortie du premier tome et on racontera ensuite l'histoire, on rentrera plus dans le détail. Parce que Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, c'est en fait le grand gagnant de la seconde édition du concours Gallimard Jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, et ben en fait, j'avais déjà participé à l'édition gagnée par Christelle Dabos avec un texte qui était complètement différent et j'avais eu la joie, la surprise, le plaisir d'avoir un retour critique de Gallimard Jeunesse sur mon texte. Donc, alléluia, alléluia, Gallimard Jeunesse qui fait un retour critique, c'est pas tous les jours. Donc j'étais contente et quand j'ai vu que la deuxième édition du concours avait été lancée, je me suis dit, il faut absolument que je leur montre que j'existe toujours et que je suis motivée comme jamais. Donc je vais écrire quelque chose de complètement différent et je vais leur envoyer. Et ben on dirait que ça a marché.
Ouais, ouais, c'est marrant, je ne connaissais pas cette histoire. Alors je savais, parce que je crois que c'est écrit dans la biographie des livres, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un retour sur le premier texte. Donc en fait c'était déjà le même texte, mais remanié, ou c'était une autre histoire ?
C'était une histoire complètement différente qui se serait adressée sans doute à des enfants plus petits. C'était une sorte d'enquête policière, voilà, pendant les vacances, un peu Club des 5 dans l'esprit.
Et alors, comment est-ce que tu as réagi quand tu as su que tu avais gagné ?
J'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Comme j'y avais souvent pensé, je m'étais dit « Ah, et si je gagne ?» Je m'étais fait des tas de films, donc en fait, la réalité n'était qu'un film de plus. Et une fois que j'ai enfin réalisé que j'avais gagné, c'est là où j'ai commencé à stresser. Et à me dire « Oh là, oh misère, qu'est-ce qui va m'arriver ? Au secours !» Voilà.
En plus, c'était un tome 1, donc je t'ai dit « Mon Dieu, mais en plus, il va falloir écrire une suite !»
Voilà, en plus, je l'ai écrit exprès pour le concours. Donc, ce qui veut dire que la version que vous avez entre les mains n'est pas celle que j'ai rendue. J'ai ajouté 3 chapitres parce que j'avais une deadline, il fallait absolument que je le rende puisque c'était dans le cadre du concours et il fallait que je me dépêche. Donc, je l'ai écrit très très vite et je l'ai rendu avec un énorme cliffhanger à la fin en me disant « Avec un peu de chance, ils voudront la suite.
» Et ça a marché. Il y avait, c'était juste l'année dernière, la 3e édition du concours pour laquelle vous étiez jury. Comment est-ce que ça s'est passé cette expérience ?
Eh ben, c'était très rigolo de passer de l'autre côté du miroir. Donc j'ai pu lire les 3 textes finalistes de l'édition. Et après on s'est réunis avec les autres membres du jury, donc des éditeurs, des blogueurs, des libraires, pour débattre. Et j'ai vu à cette occasion qu'ils savaient extrêmement bien parler des livres qu'ils avaient lus et moi pas du tout. Voilà, donc ils étaient très très compétents et moi un peu courge. Mais c'était vraiment, vraiment super sympa. Et le gagnant est super chouette, j'aime bien ce qu'il a fait, donc c'est chouette.
On va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse, les romans.
Les mystères de la RISPEM se déroulent, je le disais, dans un Paris uchronique. Une uchronie, pour ceux qui ne seraient pas familiers du genre, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. On dit souvent qu'avec des « si », on referait le monde. Eh bien, c'est exactement ça, une uchronie. C'est refaire l'histoire avec un « si ». Dans les mystères de la RISPEM, le grain de sable de l'engrenage, c'est « si la commune avait remporté la guerre civile de 1871 et instauré un nouveau régime, eh bien, vous imaginez que Paris serait devenue indépendante et que la caste des bouchers serait devenue la classe dominante. Dans l'histoire, il y a trois personnages qui voient leur destin se croiser. Liberté, Carmine et Nathanaël. Car en fait, ce qui se passe, c'est que les anciens nobles qui ont été chassés du pouvoir complotent pour le reprendre. Alors Lucie, comment est-ce que ça vous est venu, cette idée, cette uchronie ?
Alors, le point de départ de la trilogie, c'est vraiment cette histoire d'argot des bouchers, donc l'argot des Luchébem qui existe en vrai, que je n'ai pas du tout inventé. Et quand j'ai appris que ça existait, je trouvais ça formidable de savoir qu'un métier banal, connu, pas très très considéré, avait eu un argot. Et je trouvais que d'un seul coup, ça leur donnait une aura romanesque vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, je mettrais bien ça dans un livre. Sauf que je ne suis pas historienne, j'avais vraiment pas le temps de faire des recherches historiques, j'avais peur de devoir réfléchir à chaque morceau de page pour savoir si je n'avais pas fait un horrible anachronisme. Donc je me suis dit, on va déplacer ça, et comme j'aime bien les littératures de l'imaginaire, le steampunk et l'uchronie, ça me semblait tout indiqué.
Dans l'histoire, il y a donc trois personnages principaux. Il y a deux filles, il y a Carmine, Liberté, et un garçon, Nathanaël, qui ne se rencontre d'ailleurs finalement que dans le deuxième tome. Comment sont nés ces trois héros ?
J'avais envie qu'il y ait des filles avec du caractère, courageuses. Et du coup, je savais déjà qu'il me fallait deux héroïnes. Et puis les besoins de l'histoire ont fait que naturellement, Nathanaël s'est rajouté. Et après, avoir les trois points de vue, comme c'est des personnages quand même très différents les uns des autres, ça me semblait pas mal pour avoir des visions différentes dans l'avancée de l'histoire, en fait. Comme effectivement au début ils ne se rencontrent pas, on sait, les filles parcourent la RISPEM, ont des éléments. Nathanaël est bloqué dans son orphelinat, il a d'autres éléments sur l'intrigue. Et du coup après, dans le tome 2, tout ce petit monde se rejoint. Et du coup, comme ça, on assemble les morceaux du puzzle et on avait quelque chose de sympa.
Je disais tout à l'heure, donc c'est une trilogie. Quand tu as donc envoyé le premier tome, tu n'avais pas forcément la suite en tête. Comment ça s'est passé l'écriture du deuxième et troisième ?
Ça a été très compliqué, puisque je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais écrit le premier donc très vite, en me laissant plein de portes ouvertes et en me disant « on verra bien après ». Mais j'avais laissé beaucoup de portes ouvertes, mais aussi beaucoup de bâtons en travers de mes propres roues. Donc à de multiples reprises, je me suis arraché les cheveux en disant « mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça, mais c'est pas ça, c'est pas vrai ». Voilà, donc ça a été assez difficile, parce que je devais jouer avec les contraintes que je m'étais mis moi-même comme une grande. Et donc, il y a aussi le fait que, bien sûr, un tome 1, on ne peut pas revenir dessus. Hein. Donc c'était assez compliqué. Il y a eu beaucoup d'arrachage de cheveux.
Pourtant, il y a bien une conclusion. Dans le troisième tome, les personnages sortent un peu de la RISPEM, donc ils vont en France. Ce qu'on a dit, c'est séparé en fait. La RISPEM, c'est Paris, c'est indépendant, et à côté, il y a la France. Est-ce que c'était voulu qu'on sorte un peu de ce monde, qu'on voit un peu de plus loin ?
Oui, j'avais envie qu'on voit la RISPEM depuis l'autre côté et puis aussi qu'on sorte un petit peu de la ville. J'ai eu peur qu'on frôle un peu la claustrophobie. Donc du coup, j'avais envie d'emmener mes personnages un petit peu à l'extérieur pour les dépayser, voir comment est-ce qu'ils allaient réagir aussi une fois hors de la RISPEM.
Les mystères de la RISPEM, c'est une grande trilogie d'aventure. On découvre, comme je disais tout à l'heure un peu en off, on découvre dans le tome 1 le monde. Voilà, tout cet argot, cet univers, les personnages se croisent et les révélations tombent, ça c'est plus dans le tome 2, pour arriver à la conclusion explosive du tome 3. Mais derrière toutes ces aventures, j'ai remarqué quand même quelques thèmes sous-jacents. On parle quand même d'attentats. Dans le dernier tome, Nathanaël se retrouve dans un camp de réfugiés, c'est un espèce de camp dont ni la RISPEM ni la France ne veulent trop entendre parler. Est-ce que c'est important pour vous d'évoquer ces sujets ?
C'est toujours de façon plus ou moins consciente. Quand j'ai commencé à écrire les mystères de la RISPEM, je venais de commencer mon nouveau travail en fait. Et c'était la première fois que je devais prendre la voiture pour y aller. Et en fait, j'ai 25 minutes de trajet pour aller au collège où je travaille. Et une des seules radios qui passe dans ma cambrousse, c'est France Info. Et je me suis pris au jeu, en fait, du suivi d'informations. Et voilà, donc tous les matins, j'écoutais. Et je pense que voilà ce qui se passait à ce moment-là. Ben, il y avait les attentats, les élections présidentielles, voilà, tous ces problèmes de migration, les SDF, enfin, je ne sais pas, tout ça, on est très perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc forcément, c'est des thèmes qui reviennent. Je pense plus comme des questions que je me pose à moi-même, en fait. Voilà, des thèmes où je n'ai pas forcément la réponse. Et le fait de les aborder dans mes livres, ça me permet de commencer à réfléchir dessus d'une certaine façon, en fait. Donc c'est, je pense qu'il y a une grosse part d'inconscient. Il y a des choses où je me suis rendu compte après que je les avais mis en place et qu'il y avait peut-être un lien avec le monde réel.
On va pas en trop en dire, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas tout lu, il y a une petite histoire d'amour quand même dans la trilogie. Est-ce que ça, c'était prévu d'avance ou pas ?
Ouais, j'avais prévu quand même un rapprochement voilà, entre deux caractères que tout oppose et puis voilà, ce côté explosif de, ouais, je suis obligée de le dire, le côté explosif de Carmine allait très bien avec, allait bien avec son personnage, avec le fait qu'elle ait la drague un peu masculine entre guillemets, comme on le voit dans le premier tome où voilà, les deux filles sont installées dans le tram aérien et c'est elle qui fait des coucous un peu appuyés au jeune homme qui lui plaît un peu plus loin. Voilà, je trouvais ça rigolo, ça allait bien dans la personnalité de Carmine et j'ai voulu du coup mettre en place une petite histoire d'amour. Alors c'est léger, hein, c'est pas ce qui est le plus marquant je pense dans la trilogie, mais j'avais envie.
Sauf peut-être à la fin d'un certain tome, mais on ne dira pas plus. Pour finir, des futurs projets
Alors des projets, oui, alors rien de très très concret là tout de suite maintenant. En fait, pendant que j'écrivais les mystères de l'Aristem, j'essayais de rester vraiment concentrée sur l'univers, mais j'avais plein d'autres idées qui venaient, que je me notais dans un coin de mon esprit. Et donc là, je mène en fait plusieurs projets de front sans me donner trop de, voilà, de directives à moi-même. Et on va bien voir ce qui en ressort au fur et à mesure du temps.
Vous vous sentirez de vous relancer dans une trilogie ?
Non, je crois pas. Là, à mon avis, la trilogie, j'en ai soupé. Donc, ce que j'écris là pour le moment, c'est plus des one-shots voilà, dans des domaines imaginaires et moins imaginaires. Mais ouais, la trilogie, vraiment, là, stop.
Et du coup, ces one-shots avec un plan, cette fois-ci, du coup, un plan un peu plus réfléchi à l'avance ou finalement, pareil, vous écrivez au fur et à mesure
Je suis incapable de faire des plans. Si je fais des plans, après ça m'ennuie et j'ai plus envie de l'écrire en fait. Voilà, j'aime bien avancer un peu à tâtons dans le roman et voir ce qui se profile à l'horizon. Alors c'est très très embêtant quand, dans le cas de l'Aristem. Seuls les moins quand on n'a pas de deadline et qu'on est libre de revenir sur ses pas pour corriger, retoucher, etc. Donc là je suis moins stressée.
D'accord, c'est intéressant, on dit souvent qu'il y a des auteurs jardiniers et d'autres architectes. Et donc finalement vous êtes plutôt dans la catégorie des jardiniers, vous plantez une graine et puis advienne ce que poussera.
Oui, et c'est le jardin à l'anglaise, hein, pas les beaux jardins de Versailles bien taillés. C'est un peu le bazar, il en pousse de partout. Des fois c'est très bien, des fois c'est un peu la broussaille, mais je préfère comme ça.
Très bien, merci beaucoup. Lucie, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'interview.
Avant de retrouver notre invité tout à l'heure, c'est un pari beaucoup plus réaliste que nous allons découvrir à présent avec Nathan.
Tout à fait, et avant de chroniquer l'album Paris Paname dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, j'ai préparé pour vous toutes un petit jeu auquel je pense nos auditeurs peuvent eux-mêmes participer en nous envoyant leurs réponses sur Twitter, @laboucjeunesse ou autres réseaux sociaux. C'est ce fameux jeu où je vais vous confronter deux propositions, par exemple blanc ou noir, et vous devez en choisir une seule.
Ooh.
Est-ce que vous êtes prête ?
Ouais.
Alors, premièrement, course dans un parc ou course dans les couloirs du métro ?
Oh bah.
Est-ce qu'on peut ne pas courir du tout ? Parce que moi, j'aime pas trop.
Ah non, là, tu dois courir.
À Paris, c'est un peu dur de jamais courir.
Moi, je déteste courir, alors concrètement, je cours plus dans les couloirs du métro que dans les parcs, où je me balade tranquillement. Le couloir du métro.
J'ai plus de dire dans la forêt quand même parce que j'aime pas courir ni dans l'un ni dans l'autre. Quitte à choisir.
Idem, comme Laetitia.
Musée ou Instagram ?
Musée.
Bah ouais, musée. Instagram, ça me gonfle un peu.
Laetitia s'étrangle.
Moi, j'aime bien les deux. Mais musée quand même parce qu'en plus, je travaille pour un musée.
Je dis musée. Parce que tout le monde m'entend.
Alors, on parle de vacances, juilletiste ou haussien ?
Haussien.
Genre, est-ce que tu veux dire, est-ce qu'on préfère les juillettistes qui viennent ici ?
Est-ce que tu pars en juillet ou est-ce que tu pars en août ?
Ben moi, de préférence, je pars en dehors des vacances scolaires. Moi aussi.
Septembre.
C'est trop bien, juillet-août à Paris, il n'y a personne. Et là, pour le coup, tu profites vraiment de Paris. Tu sors du boulot, il fait beau, tu peux aller sur les quais et tout. Donc,
aucun des deux pour Christelle.
Ouais. Pareil, moi, septembre.
Je sais pas, moi, toute ma vie, mes vacances, c'était en août. Enfin, je sais pas, j'ai un truc avec le mois d'août. Après, c'est l'anniversaire et de ma mère et mon frère, le même jour. C'est hyper lié. Enfin, pour moi, c'est vraiment août.
C'est la fête, quoi.
Ouais.
Alors, on va faire un petit pont avec l'émission précédente qui parlait de la nuit. Vélib de jour ou Vélib de nuit?
Oh bah de nuit, de jour, c'est le stress absolu. Franchement, en plus, moi, quand j'en fais avec mon mari qui genre, en a rien à foutre de rien, qui traverse les ronds-points à d'enfer, en plein milieu, j'ai arrête, frère et tout. Si tu freines pas tout de suite, je repose le Vélib et on n'en fait jamais. Donc la nuit, ouais.
Moi, je fais jamais de vélo à Paris. En fait, j'aime pas trop ça. Je prends plutôt ma voiture.
À vous, tu prends les trottinettes électriques.
Non, j'aime pas ça non plus. J'aime pas les trottinettes électriques. Mais si je devais faire du vélo, je pense que je préfère en faire de nuit parce que c'est plus tranquille.
Pareil, je crois que j'ai jamais pris un Vélib de ma vie, en fait. Enfin, j'en suis même sûre. Je sais même pas comment ça marche. Mais bon, je sens tout ce que je préférerais de nuit que de jour.
Ouais, moi, j'ai jamais pris que des Vélib la nuit, en fait, je crois. Et puis, c'est tellement... libre quoi, d'être sur les routes de nuit en vélo. Un peu de, sur le même thème, 19h ou 4h du matin?
19h à 4h, je dors.
Ça dépend pourquoi, si c'est pour aller dans le métro, c'est quand même plus calme à 4h.
C'est fermé à 4h du matin.
4h, t'en auras pas.
Hein. Ça commence, ça dépend des
premiers, je crois.
Ouais, il n'y en a pas avant?
Non.
Non, je crois pas.
Bon, comme quoi, je dors.
Et toi Léa?
Moi 4h du matin en vrai parce que ça m'est déjà arrivé d'être réveillée dans Paris très très tôt et c'est beaucoup plus agréable d'y être à 4h du matin qu'être à 19h qui est l'heure de la débauche où tous les gens sont pressés de rentrer chez eux. Voilà, donc 4h du matin, c'est plus, beaucoup plus mystérieux.
On part sur un peu de tourisme, Notre-Dame ou les bouquinistes des Quais de Seine?
Ça va ensemble, l'un va pas sans l'autre.
Là vous devez choisir.
Moi, Notre-Dame.
Ouais, j'avoue, moi aussi, Notre-Dame.
Moi, je préfère les bouquinistes des quais de Seine. Voilà.
Bateau-mouche ou apéro sur les quais?
Apéro sur les quais.
En faisant coucou au bateau-mouche.
C'est bientôt, là. Il refait beau, c'est bientôt les apéros.
Moi, j'ai déjà fait. Manif ou partie de skate à République? Les deux, ils sont.
Que alors, choisir la seule le fois moment. De ma vie où je suis montée sur un skate, je me suis complètement ramassée, limite pété le coccyx. Et j'ai fait une manif dans ma vie, donc j'imagine manif.
Moi, manif aussi. En plus, les manifs qui finissent à République, généralement, soit quelque chose de très triste, soit quelque chose de très joyeux. Ça dépend de l'objet de la manif. Et c'est toujours des moments où, dans cette ville où on parle jamais aux autres, on se sent pourtant vachement en cohésion avec les gens qui nous entourent. Et je trouve ça assez beau.
Ouais, je crois pas non plus être déjà montée sur un skate. Hein. Et comme Christelle, j'ai dû faire genre deux manifs dans ma vie. Mais bon, je vais du coup prendre les manifs quand même.
Jambon beurre dans un parc ou steak frites en terrasse?
Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le concept de la terrasse parisienne. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Genre, tu vas payer 15 euros ton cocktail pour être au bord d'un trottoir avec des voitures qui te
font leur peau d'échappement sur le
nez et où tu dois hurler pour parler. Donc, non, moi, je le fais souvent. Je prends des sandwichs et je vais manger dans des parcs. Je trouve ça plus cool.
J'aime bien les deux, moi. Mais... ouais, je crois que je vais quand même prendre la terrasse. Moi, j'aime bien les terrasses parisiennes.
Ouais,
on ira ensemble
bien.
Si tu veux, je te montrerai pourquoi c'est cool.
Moi, c'est pareil, j'aime bien les deux, mais j'avoue que je suis plus. Par exemple, le midi, quand je fais ma pause déjeuner, l'été, je suis plus à aller prendre un petit sandwich et à me poser dans un parc ouais, que d'aller en terrasse où, effectivement, c'est souvent des rues qui sont assez bondées, où il y a beaucoup de voitures, donc c'est pas toujours très agréable.
Hiver ou été à Paris?
Oh, bah l'été, justement, il n'y a personne. Il fait beau.
Ouais. Moi, j'aime pas l'hiver, à part Léa.
Non, c'est trop mignonne. Moi, l'été aussi, ouais, c'est beaucoup plus agréable, il y a moins de monde. Et puis, Paris sous le soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable que Paris sous la pluie, quoi.
Et pour finir, on revient à la nuit. La Tour Eiffel de jour ou la Tour Eiffel de nuit?
De nuit.
Avec Laetitia, il n'y a pas longtemps, on était au lancement du dernier Lucky Luke. C'était dans la Tour Eiffel, c'était la nuit. Et au moment où on est sorti, au premier étage de la Tour Eiffel, ça s'est illuminé. Ça a commencé, vous savez, à clignoter dans tous les sens. Et c'était juste magique,
ouais,
en fait.
On était comme des enfants, comme des touristes. On s'émerveille toujours autant, quoi.
Pour moi, c'est très dur de choisir, en fait. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup tout ce qui est l'art industriel et tout. Donc, j'aime beaucoup la Tour Eiffel de jour. Mais c'est vrai que de nuit, quand elle revêt sa robe de lumière, elle a un côté vraiment magique et on la voit de très, très loin. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, bah, vous vivez peut-être à Paris ou peut-être pas, si vous écoutez le podcast ailleurs en France. Mais on la voit vraiment de très, 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 très loin en Ile-de-France, la Tour Eiffel. En fait, c'est un véritable phare. Et du coup, je vais quand même dire de nuit parce qu'il m'est arrivé de rentrer à Paris très tard sur les routes de nuit. Et très loin sur l'autoroute, de la voir de loin. Et je sais pas, ouais, c'est comme un phare, c'est un peu magique en fait.
Mais elle a une lumière en haut de qui fait comme un phare en fait. Ouais. Moi qui habite dans le 13e, qui est quand même assez loin de la Tour Eiffel, depuis la fenêtre de ma cuisine, on voit la lumière sur la vitre, tu sais, de la Tour Eiffel qui tourne.
Ouais.
Et c'est vrai, quand, même si tu vois pas la Tour Eiffel de loin, t'es là, c'est la lumière de la Tour Eiffel.
Moi qui suis à Vincennes, tout à l'est, je la vois aussi. Donc,
Merci à toutes les trois. Vous aurez compris que ce petit jeu a un lien étroit avec le livre dont il est question dans cette chronique, et c'est parce que toutes les situations que je viens d'énumérer sont issues du livre, parfois très légèrement adaptées. La différence fondamentale entre mon jeu et le livre, c'est que dans Paris-Paname, toutes ces situations viennent se compléter. Elles sont parfois très différentes comme on vient de le voir, mais ces deux facettes forment ensemble l'identité même de cette ville lumière étouffante, de cette ville douce et festive, de cette capitale historique et moderne, de cette cité de travail et d'alcool, Paris.
Attends, tu vas nous parler de douceur et d'histoire, mais aussi de pollution et d'alcool. On parle bien de littérature jeunesse, Nathan, hein, t'as suivi ?
Oui, et en même temps non. Je fais un peu Maléa dans cette émission. Elle nous présente souvent des BD à la frontière des âges, ados et adultes. Ben moi, j'ai choisi de vous parler d'un album qui est publié chez Milan et Demi, créé par les éditions Milan, qui sont spécialisées en littérature jeunesse. Ce label a, ou avait, parce que je ne sais pas trop s'il existe encore, pour vocation de publier des albums, mais pour les adultes, qui sont donc aussi accessibles aux ados. Le label reprend toutes les qualités des livres de littérature jeunesse et de son savoir-faire, illustration, créativité, graphisme, inventivité, narration dynamique, ouvrage léché, etc. Mais pour en faire des livres dits pour adultes, de par ses sujets ou ses thèmes.
Et alors, de quoi parle ce livre ?
Eh bien, de Paris, vous en serez douté, mais de manière générale, du quotidien et de la vie parisienne. Sauf que l'album ne prend pas tellement le parti de l'enfant, l'école, les jeux, etc. Bien qu'on voit quelques bambins dans le livre, mais plutôt de l'adulte. Vous serez plongé dans le quotidien d'un Parisien, et si vous en êtes un, vous retrouverez nombre de situations que vous connaissez déjà bien, ou en tout cas que vous côtoyez.
Mais alors, est-ce que l'album a une histoire ou pas ?
Pas tellement, c'est vraiment une suite de situations parisiennes que l'album met en scène, avec une forme qui joue tout sur la surprise. Chaque page présente une illustration, avec une courte phrase, et peut se déplier. L'illustration, dont une partie reste la même, révèle alors astucieusement une autre image et une scène totalement nouvelle. Le principe assez classique finalement, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup en littérature jeunesse, marche diablement bien et permet de retrouver assez jouissivement une joie toute enfantine à retourner chaque page pour découvrir ce qu'elle cache. Je pense par ailleurs que l'album peut être contemplé par toute la famille. Là où les enfants puiseront le simple effet de surprise et reconnaîtront quelques situations, les plus grands s'amuseront à y retracer leur quotidien, voire à rire un peu d'eux-mêmes. Nous qui croyons ne pas être ce Parisien stéréotypé qui fait rêver tant de touristes étrangers, cet album ne montre-t-il pas l'essence même du Parisien et de la Parisienne dans une suite de clichés ? Oui et non, pourrait-on répondre à cette question. Comme le dit si joliment la quatrième de couverture, et si la poésie de Paris résidait dans ses surprises ? Des surprises, il y en a à chaque page, comme à chaque coin de la capitale et de n'importe quelle ville. Ce que j'aime dans la conception de cet album, c'est qu'il dresse le portrait d'une ville par petites touches impressionnistes. Mais n'importe quelle ville a ses contradictions et ses facettes, ses caractéristiques et ses traditions. Je pense donc que chacun peut se retrouver dans cet album grâce à cette poésie du quotidien qui personnellement me touche tant. Un lieu, une personne, une vie n'est pas fait d'un bloc, mais est l'assemblage de tout un tas de petites choses, de petits bonheurs et de petites angoisses.
Et alors le dessin ?
Est-ce que je te surprends si je te dis que je l'adore ? C'est un dessin assez adulte, encore une fois, même si le médium de l'illustration, d'ailleurs assez coloré, peut aussi séduire les enfants. C'est un dessin que j'ai envie de qualifier entre guillemets d'instagrammable. Coloré, vivant et moderne en fait, il est très graphique, avec une palette de couleurs assez douce et très agréable, un vrai coup de cœur pour ce dessin. Finalement, c'est un album qui dresse avec tendresse et chaleur le portrait d'une ville grouillante, surprenante, épuisante, artistique, touristique, diurne et nocturne, vieille et moderne, festive, manifestante, chaleureuse, gourmande, familiale et vivante.
Paris Paname de Sébastien Plassard, c'est aux éditions Milan. C'est maintenant l'heure de la bagarre. C'est l'heure de nos livres contraires. Léa et Christelle s'affrontent aujourd'hui sur la question suivante. Quelle histoire pourrait se dérouler à Paris ? C'est l'avant-dernière battle de la saison, alors j'espère que vous allez tout donner pour défendre vos œuvres préférées avant le bilan du mois prochain. Pour vous départager, Nathan, Marion, notre community manager, et moi. Vous êtes prêtes ? Yes. C'est parti.
Alors moi, j'ai choisi de déplacer à la capitale un univers qui, a priori, n'a strictement rien en commun avec Paris, Narnia. Oh. Et oui, Narnia, c'est de la nature sauvage et verdoyante, la magie qui court dans chaque rivière, les animaux qui parlent. Alors qu'à Paris, les seules créatures sauvages, c'est des pigeons à moitié crevés et des rats beaucoup trop vivants, qui heureusement ne parlent pas. Mais malgré cette totale contradiction apparente entre Narnia et Paris, je vais vous montrer que les chroniques de Narnia pourraient parfaitement se dérouler à Paris, voire que c'est déjà le cas.
À Christelle, ça tombe bien, j'ai aussi choisi un ouvrage avec des rats beaucoup trop vivants. Ben oui, ceux qui traînent dans les égouts de Paname, de Panem, et que Katniss dégomme dans le tome 3 de Hunger Games. Au premier abord, on pourrait pourtant penser que notre ville, la ville de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, n'a rien à voir avec le régime totalitaire et autoritaire qui nous est décrit dans la dystopie de Suzanne Collins. Et pourtant...
Alors pour soutenir ma thèse, qui est, je le rappelle, que Narnia et Paris, c'est finalement à peu près pareil, je vais m'appuyer sur trois personnages. Et le premier, c'est Lucie, la plus jeune de la fratrie. Imaginez la jeune et courageuse Lucie dans le couloir d'un superbe immeuble haussmannien. En haut d'un escalier, elle se retrouve soudain devant la porte d'un placard, se demandant ce qui peut bien se trouver derrière. Elle hésite. Et si un monde dangereux et inattendu l'attendait au-delà de la porte ? Mais elle n'entendait pas dans l'escalier, alors vite, elle ouvre l'armoire, plonge à l'intérieur et se retrouve dans un placard de 8 mètres carrés, hauteur moyenne sous plafond 80 cm, un Velux, pas d'eau chaude, toilette sur le palier, 650 € hors charge. Mais Lucie a un papa mort à la guerre et une maman qui possède à peine de quoi vivre. Désolée Lucie, pas de garant, pas de placard magique.
Lucie va devoir rester cachée dans son placard un petit moment si elle veut échapper à la guerre. Vous savez tous de quoi je parle, parce que la reine, on la redoute tous ici, autour de cette table. Ce lieu sans foi ni loi, où tout le monde est ton ennemi, et où, à l'instant où tu y mets les pieds, te transforme à jamais. Oui, je vous parle du métro le matin. Et survivre demande exactement les mêmes compétences que celles des tribus. Le calcul, il faut trouver la meilleure place. Le charisme, il faut écraser ce voisin qui se colle un peu trop de ton aura menaçante. L'agilité, pour pas venir à se frayer un chemin entre la poussette et le papier assis sur le strap. Et enfin, la force. Bah oui, il faut bien écraser les autres passagers pour sortir de la rame. Allez, que le sort vous soit favorable.
En parlant de sort, le deuxième personnage qui prouve que j'ai raison, c'est Jadis, la sorcière blanche. Mais qui, en région parisienne, pourrait représenter la reine usurpatrice de Narnia ? Est-ce Valérie Pécresse, qui dans son immense cruauté a fait voter la fin des aides aux logements sociaux pour les communes en comptant déjà 30%, tout comme la sorcière a fait interdire Noël ? Ou est-ce Anne Hidalgo, qui dans sa perversité innommable a fermé les quais de Seine aux voitures, transformant les automobilistes en statues de glace figées dans d'interminables bouchons sur le périphérique ? Difficile de décider. On pourra trancher le jour où l'une des deux lancera une distribution de loukoum sur les grands boulevards.
En tout cas, Paname héberge son propre président Snow qui sent bon la rose lui aussi. À coup de grand débat national, il tente de nous faire croire que les heures sombres sont derrière nous et que la voix de ses citoyens est entendue. Ah, ce qui est certain, c'est que lui, il l'encouragerait également Katniss. Allez gamine, c'est pas compliqué, tu traverses l'arène là, et de l'autre côté, il y a une jolie bicoque et de la bouffe pour toute ta famille. Quoi, t'es pas contente ? Mais quelle feignasse ! Je t'offre pourtant une chance inouïe de pouvoir profiter de notre belle société de consommation sur un plateau d'argent. Comment ça, il te plaît pas mon scénario ? Attention, si tu respectes pas ce qu'on a tous choisi pour toi, tu risques d'y laisser un tympan, une petite main ou même un œil. Bon allez, je casse l'ambiance.
Je vais relever l'ambiance ou pas avec mon troisième et dernier personnage, Monsieur Tumnus. Vous savez, c'est le gentil faune, l'ami de Lucie qui joue de la flûte bizarre. Eh bien, figurez-vous qu'à Paris, on en a plein des faunes. Mais si, je suis sûre et certaine, vous en avez déjà rencontré. Bon, par contre, j'admets, c'est pas vraiment la version Tumnus, hein, c'est plutôt la version trash du faune. Vous savez, celui qui court après les nymphes pour les pécho sans leur consentement au bord de la rivière. Vous voyez où je vais en venir ? Parce qu'à Paris, des faunes, bon, ils pullulent pas tellement au bord de la rivière, mais dans le RER. Et là, je peux vous dire que des faunes pervers, on en recense plus de spécimens que dans tout le royaume de Narnia.
C'est vrai que Paname et Panem sont habités d'une drôle de faune locale. Au Capitole, comme dans la capitale, on parle d'ailleurs de district ou de région. Tandis que les uns s'extasient sur cette superbe combinaison alliant mode et nanotechnologie en provenance du district 8, les Parisiens, ils s'arrachent cette petite confiture de marron bio d'Ardèche équitable achetée chez Naturalia, 25 € le pot. Étrangement, dans les deux cas, le degré de précarité des personnes qui produisent ces biens est inversement proportionnel à celui de ceux qui les achètent. Et ce qui est certain, c'est que dans les deux villes, on a une tendance à la passion débordante pour les expérimentations vestimentaires, les fêtes décadences, et on canalise les révolutions de tout poil.
Alors moi, j'espère que mes trois personnages vous ont convaincu. Je m'arrête là, mais j'aurais pu continuer longtemps. Hein. Par exemple, dans le premier tome des Chroniques de Narnia, on découvre le bois d'entre les mondes. C'est une forêt où chaque étang est une porte qui mène à un monde différent et inconnu. Et bah, c'est un peu le bois de Boulogne, chaque promenade est une surprise et tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et les rats et les pigeons, bah, je vous ai dit tout à l'heure, heureusement qu'ils parlent pas. Mais vu qu'ils se nourrissent uniquement de restes de McDo et qu'ils boivent l'eau de la Seine, ça m'étonnerait pas qu'on en voit muter quelques-uns dans pas longtemps. Hein. Et ça serait chouette de taper la discute avec Vaillant et Ratatouille, non ? Bon, vous l'aurez compris, vivre à Paris, c'est déjà un peu connaître les joies de la magie de Narnia.
Bon, en fait, moi, je sais même pas pourquoi je m'échine à essayer de vous convaincre depuis tout à l'heure. On le sait tous autour de cette table, Hunger Games se déroule littéralement à Paris. Bah oui, littéralement, puisque le troisième film adapté de la saga est venu tourner certaines des images de Panem. Le troisième ou le quatrième, d'ailleurs, je me rappelle plus très bien. Mais bon, ok, je vous vois tous tiquer là autour de la table. Je sais, c'est pas Paris, il faut prendre le RER. Bon, c'est Noisy, ok. Soyons pas snob, hein, ça se fait très bien, et voilà. D'ailleurs, Laetitia, qui a bossé pas bien loin, pourra vous le confirmer.
Oui. Bravo, bravo les filles. Mais oui, effectivement, je suis allée voir les lieux du tournage en bonne grosse fan d'Hunger Games. Alors, c'est maintenant l'heure de vous départager. Nathan, pour qui est-ce que tu votes ?
C'est hyper dur, là vous avez été toutes les deux très fortes. Je pense qu'instinctivement au début, j'aurais plutôt voté pour Hunger Games, parce que je trouve le rapprochement assez évident, la guerre du métro. Mais Christelle m'a vraiment convaincu à coup d'arguments narniens, et du coup je lui attribue mon vote.
Marion ? Qui se rapproche.
Oui, alors pareil que Nathan, c'est très compliqué et je pense que je vais quand même donner mon point à Léa parce que c'est vrai que quand je prends le métro aux heures de pointe, j'ai plus l'impression d'être dans Hunger Games que dans...
Et ben moi, je vais aussi voter pour Léa, mais c'était vraiment trop trop bien toutes les deux pour le côté hyper politique et engagé de ta chronique en fait. Non mais c'est vrai, c'est rare qu'on aille sur ce terrain-là. Du coup, voilà, c'est... Bravo Léa, c'est toi qui gagne.
Merci. Bravo Léa, tu m'as beaucoup fait rire avec ton pot de confiture de marron bio d'Ardèche.
La bande dessinée que nous allons maintenant découvrir avec toi Léa justement, traite d'un Paris plutôt réaliste, porteur d'espoir et de désillusion.
Tout à fait. Donc comme on le dit depuis le début de l'émission, nous sommes tous parisiens d'adoption autour de cette table. Mais savez-vous ce qu'est la Petite Égypte à Paris ?
Non.
Il s'agit d'un quartier situé à 2 km de l'endroit où nous sommes assis, dans le second arrondissement de la capitale. Ces rues se nomment rue du Nil, rue du Caire, rue d'Alexandrie, autant de noms qui évoquent plus les pharaons que la réalité de ce petit quartier où se tenait d'ailleurs au Moyen-Âge la fameuse Cour des Miracles. Et à votre avis, quel est le point commun entre la Petite Égypte et la Cour des Miracles ? Pas facile. Eh bien ce sont les gitans. Saviez-vous que le terme gitan vient de gypsy, qui est une déformation d'égyptien ? Et que la Petite Égypte est également le nom que donnèrent les premiers Roms à immigrer en Europe à leur pays d'origine. Et oui, l'histoire des Fils du Vent, qui habitent les pages de Notre-Dame de Paris ou celle des Fleurs du Mal, est liée à la ville de Paris depuis des centaines et des centaines d'années.
Après bon, soyons honnêtes, ni à Paris ni dans le reste de la France, on a la vision romantique des Fils du Vent que tu viens de nous décrire.
C'est vrai. Quand on pense aux Roms à Paris, on visualise direct les vols de portables dans le métro, les familles sur le trottoir et les rixes urbaines douteuses desquelles tout le monde se tient bien éloigné. Comme toutes les personnes sans papier, j'imaginais bien, moi, que les Roms devaient payer passeur et tutti quanti pour venir en France. Ce que j'imaginais moins, c'est qu'une fois arrivés ici, de véritables réseaux d'esclavage moderne s'emparent parfois de ces personnes en leur coupant toute possibilité de s'intégrer à la société. C'est ce qui arrive à la famille du jeune Cyprian dans la BD dont je vais vous parler. Adapté d'un roman jeunesse, donc Le fils de l'Oursari, le roman a été écrit par Xavier Laurent Petit et la BD a été adaptée par Cyril Pommès et Isabelle Merlet. Cette BD raconte l'histoire donc d'une famille, Rome, qui se retrouve invitée à entamer un grand voyage vers la France, moyennant le remboursement de leurs frais de passage. Que pourrait-il se passer pour cette famille dans un pays où l'argent coule à flot et où tout le monde est beau et riche ? Nous, autour de cette table, nous le savons malheureusement que trop bien. Et d'une vie, certes pas toute rose, mais relativement heureuse, la famille de Cyprian va sombrer dans le sordide.
Ah Léa, c'est le grand retour des BD déprimantes. Je vais pas te le cacher, moi ça m'avait un petit peu manqué.
Ah, pas si déprimante que ça, je te rassure Laetitia, car dans la famille du petit Cyprian, 10 ans, tout le monde est haut en couleur. Il y a d'abord son père, le montreur d'ours, l'oursari, qui doit relâcher sa bête pour entamer le grand voyage et qui adore les grandes envolées lyriques. Il y a aussi sa sœur Vera, qui danse merveilleusement bien sur les marchés avec son tambourin. Il y a son frère Dim, qui n'a pas son pareil pour aller emprunter quelques légumes sur les étals des marchands. L'humour est d'ailleurs très présent dans l'histoire, souvent par des effets de décalage, à travers un personnage qui s'exclame « La tour Eiffel !» devant une simple grue de chantier, ou dans la gêne que l'association qui est chargée de reloger la famille dans un hôtel miteux après le démantèlement du camp clash en fait avec le bonheur de la famille qui, elle, a pour la première fois de sa vie un simple accès à l'eau courante. Tout ça, c'est raconté sans pathos et avec beaucoup d'humour.
C'est vrai que c'est un peu tout le paradoxe de Paris. On y trouve des extrêmes en termes de richesse et de pauvreté.
L'argent est d'ailleurs au centre des préoccupations de la famille et au centre de l'album, car la famille doit rembourser une dette qui ne fait que grossir de jour en jour. Mais le petit Cyprian, lui, a une autre priorité. Caché derrière les statues et les plantes du jardin du Luxembourg, il passe des heures à regarder deux vieux obèses jouer aux échecs, mémorisant chacune de leurs parties. Bientôt, le jeu d'échecs va occuper tout son esprit. Le regard du gamin sur le monde est soutenu par un dessin expressionniste qui n'hésite d'ailleurs pas à utiliser la métaphore pour faire ressentir au lecteur les mêmes émotions que celles des personnages. Les figures de l'ours et celles des pièces d'échecs traversent l'œuvre, symbolisant la famille qui sont telles les pièces du jeu d'échecs, sont finalement les jouets d'un système. Et l'ours symbolise lui les racines du personnage qu'il a abandonné dans son pays quand l'ours a été relâché, son pays d'origine. Et donc tout ça, ça participe à l'identité du petit garçon. En faisant les bonnes rencontres, Sip, le petit, va devenir le maître de son destin, entrer dans un club, développer son talent aux échecs jusqu'à devenir un champion. Cependant, les destins de tous les personnages de cette bande dessinée restent subtils. Si Cyprian, lui, est très content d'apprendre à lire et à découvrir le monde des gadgets, les non-gitans, sa sœur plus âgée a vraiment du mal à adapter un mode de vie sédentaire qu'elle n'a jamais connu, par exemple.
Alors, ça me semble un petit peu énorme quand même, question réalisme, ce gamin qui débarque et qui devient champion d'échecs.
Bah, c'est exactement ce que je me suis dit en lisant la BD Laetitia, parce qu'il ne sait même pas lire, il ne sait pas écrire. Enfin, vraiment, c'est un petit qui a vécu que sa vie dans sa caravane avec ses parents. Voilà. Il n'a pas du tout cultivé, il ne parle pas du tout le français d'ailleurs. Mais en faisant des recherches autour de la conception de l'ouvrage et de l'adaptation du roman en BD, j'ai découvert que l'auteur, donc Xavier Laurent Petit, s'est inspiré d'une histoire vraie. Celle du jeune Fahim, arrivé du Bangladesh avec son père à Créteil, est déjà très doué aux échecs. Repéré par le club de la ville, Fahim deviendra champion de France junior à 12 ans. Cette histoire est fascinante car, comme celle de la BD, elle pose la question de la valeur que nous accordons à toute vie humaine. Si les Parisiens qui, dans la bande dessinée, gravitent autour du jeune garçon se mettent en marche pour le protéger, c'est qu'il décèle chez lui quelque chose de génial. Eût-il été banal, il ne lui aurait jamais accordé un deuxième regard. Ultimement, est-ce un don ou une forme d'intelligence qui nous rende plus valeureuse notre vie par rapport à celle d'un autre ? Cette question philosophique que pose en filigrane l'album m'a vraiment passionnée et m'a donné à réfléchir pour longtemps.
Le fils de l'Ursari, c'est une bande dessinée d'Isabelle Merlet et Cyril Pommès, adaptée donc d'un roman de Xavier Laurent Petit.
La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
Nous allons à présent retrouver notre invitée, Lucie Pierra Pageot, l'autrice des Mystères de l'Arispem, pour continuer l'interview sous la forme d'un petit jeu.
On se retrouve donc pour la deuxième partie de notre interview, toujours avec Lucie Pierra Pageot. Il y a une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, c'était de savoir est-ce que tu as fait beaucoup de recherches sur l'histoire ou sur les lieux ? Parce que tu disais que tu ne voulais pas écrire quelque chose de réaliste pour ne pas être piégée là-dedans. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a des recherches, il y a des bases de réel.
Oui, pour que ça soit convaincant, il me fallait quand même une base réelle relativement solide. Donc oui, j'ai fait des recherches. Internet et la bibliothèque d'Auxerre ont été mes meilleurs amis. Donc oui, j'ai cherché.
Et tu as trouvé. Alors, du coup, toujours dans cette idée, pour le petit jeu qu'on prévoit toujours à nos auteurs, je me suis dit que j'allais vous lire des affirmations, toujours en lien avec les mystères de l'Arispem, et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou faux, et éventuellement, voilà, discuter autour de ça. Prête ?
Oui.
Jules Verne, qui est un personnage du roman, a vraiment vécu à la fin du 19e siècle. Vrai ou faux ?
Mais il me semble que oui. Voilà, je suis déjà piégée dès la première question. Mais théoriquement, il était encore vivant à la date où je l'ai introduit dans l'univers de l'Arispem.
Et du coup, pourquoi l'avoir inclus dans le roman ?
Ah, parce que... L'univers était un peu vernien avec cette technologie avancée, etc. Et du coup, c'est un peu un jeu dans la littérature steampunk de recaser des personnages réels ou même des personnages de fiction dans l'histoire. Donc là, Jules Verne, en maître à penser de l'Arispem, j'aimais beaucoup l'idée.
Deuxième affirmation, l'ambassadeur du Reich, von Schnuberg, je ne sais pas trop bien le dire, a réellement existé.
Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, j'ai cherché un nom qui puisse faire ambassadeur du Reich. Hein, voilà, et ça m'a beaucoup amusé de fabriquer son nom. Schnur, je crois que ça veut dire ronronner en allemand, et Berg, c'est la montagne. Donc, voilà, la montagne du ronronnement.
Est-ce que tu avais pensé à mettre un personnage réel comme ambassadeur ?
Non, parce que là, ça aurait été vraiment trop pointu. Donc, je me suis débrouillée avec ma petite imagination.
Affirmation suivante, des foires aux orphelins se déroulaient à Paris au 19e.
Non, non, là aussi, totalement fictif. Heureusement pour les orphelins du véritable Paris au véritable 19e siècle. Voilà, mais c'est, voilà, pour sortir de l'orphelinat, effectivement, on propose une foire aux orphelins pour embaucher un orphelin solide et fiable dans son entreprise.
C'est les stagiaires de l'époque.
C'est exactement ça.
Affirmation suivante. Les derniers combats de la commune se sont déroulés dans le cimetière du Père-Lachaise.
Alors ça, oui, par contre, c'est vrai. Effectivement, les derniers combats, paraît-il que si on se promène du côté du Père-Lachaise, on voit encore des traces de balles sur les murs datant de la commune. Donc je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mais effectivement, les derniers combats, ils étaient acculés au cimetière du Père-Lachaise et ils se sont fait massacrer en brûlée.
C'est ça, alors que dans l'histoire, c'est l'inverse qui se produit en fait.
Oui, dans mon histoire, effectivement, revirement de situation et à la dernière extrémité, ils sont sauvés par les courageux Louchébem.
Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu as été dans Paris, toi, voir les lieux en question ? Parce que comme tu n'habites pas ici, ou est-ce que c'est juste servi de voilà, Google Maps et Internet
Alors, je me suis beaucoup servi effectivement de Google Maps, mais j'ai été sur place aussi. Donc, j'ai pris des photos, j'ai essayé de repérer des lieux. Par exemple, des trucs stupides pour la hauteur des bâtiments. Dans le tome 3, j'avais absolument besoin de savoir quelle était la hauteur de l'orphelinat. Donc, l'orphelinat dans la vraie vie, c'est correspond en fait au Ritz sur la place Vendôme. Et il fallait que je sache à peu près à quelle hauteur étaient les fenêtres dans mon truc. Et c'est extrêmement compliqué de savoir combien mesure un immeuble parisien. Donc en fait, j'y étais. Alors j'ai essayé de voir avec les piétons. Si je mets deux piétons l'un par-dessus l'autre mentalement, ça me fait à peu près 4 mètres. Est-ce que c'est ça ? Voilà, donc j'ai fait un petit peu de repérage. J'ai pris plein de photos et j'ai essayé de me dépatouiller avec ça.
Avec un double décimètre devant l'immeuble.
Oui, sachant que le Ritz, c'est place Vendôme, juste à côté des joailliers. Je voulais éviter d'avoir l'air de préparer un casse, donc je suis restée discrète.
On reprend les affirmations. Affirmation suivante. Comme Carmine, tu es une experte du lancer de couteau.
Évidemment, tous les matins au petit déjeuner. Non, ce serait plutôt mon mari qui donc est lui réellement boucher et qui maîtrise bien les couteaux. Voilà, donc il s'est taillé la viande comme personne. Mais moi, non.
Est-ce que lui, d'ailleurs, ton mari, il a relu les livres ? Est-ce qu'il t'a aidé à ajouter certaines petites choses ?
Alors oui, il a lu les livres une fois que je les ai écrits. Et puis je l'ai consulté de temps en temps sur le nom des couteaux. Je crois que dans le tome 1, il y a les noms des couteaux. Voilà, le tranchelard, le désosseur, la feuille. Voilà. Donc là, je lui ai dit, hey, chérie, au fait. Voilà, donc c'était assez rigolo.
Avant-dernière affirmation, la Villette, ce quartier du 19e arrondissement, accueillait des abattoirs.
Oui, il y a eu des abattoirs jusque dans les années 60, je crois. Et après, ils ont été déclarés pas assez salubres, pas assez hygiéniques. Donc, ils ont été complètement fermés. Maintenant, il y a la Cité des Sciences et le parc de la Villette. Mais c'était des abattoirs énormes. Les animaux arrivaient par train entier de la province. Ils traversaient Paris le matin. C'était gigantesque.
C'est ça, pour l'anecdote, en 1900, il y avait jusqu'à 23 000 moutons et 5 000 bœufs qui étaient abattus et dépecés chaque jour là-bas.
Voilà, on appelait ça la cité du sang, hein. C'était charmant. Voilà, un clin d'œil à nos amis véganes.
Et pour finir, une tour Verne existe à Paris, dans le quartier de la Défense.
Eh bien non. Si elle devait être quelque part, ce serait plutôt à la place du Sacré-Cœur, puisque en fait, le Sacré-Cœur a été construit en réparation des péchés des communards. Donc forcément, dans un monde où la commune a triomphé, on ne peut pas avoir de Sacré-Cœur. Donc à la place, il y a la Tour Verne.
Et oui, et pour l'anecdote, le restaurant en haut de la Tour Eiffel, lui, s'appelle bel et bien le Jules Verne.
Et oui, ça, effectivement, c'est vrai. Mais dans la Rispem, il n'y a pas non plus de Tour Eiffel.
Zut.
Et ouais.
Merci beaucoup, Lucie, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ben, merci, Laetitia. Ça m'a fait plaisir.
Merci encore à Lucie Pierre-Apajot d'avoir répondu à nos questions lors de son passage à Paris. Et si vous n'avez pas encore lu Les Mystères de l'Arispem, je vous recommande vraiment la série. Vous y découvrirez un monde envoûtant avec des personnages hauts en couleur. Et croyez-moi, après cette lecture, vous ne verrez plus jamais votre boucher de la même façon. Christelle, tu as choisi ce soir le roman d'une auteure qui est déjà passée derrière notre micro. C'était en 2017, c'était avec Jean-Christophe Tixier. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview sur le site de Radio Campus si ça vous intéresse.
Oui, puisque je vais vous parler d'un roman de Manon Fargeton, Nos vies en l'air, qui est paru en janvier 2019 aux éditions Rajo.
Alors, est-ce que tu peux nous pitcher un peu cette histoire? Parce qu'il me semble qu'elle commence assez fort.
Oui, en fait, le roman commence sur une question posée telle quelle brutalement. Tu vas sauter? Cette question ouvre le roman et elle va guider les péripéties des deux jeunes héros, Mina et Océan. Parce qu'avant ce soir-là, ils ne se connaissaient pas. Ils se rencontrent là, au bord du même toit, à cause d'une simple coïncidence. Ils ont tous les deux décidé de se suicider au même moment, au même endroit.
Waouh, et ils sautent?
Alors non, ou du moins pas tout de suite. Hein. Tu vas sauter? Oui, elle sauta. Non, voilà, je sais que j'ai l'habitude de vous présenter des romans très courts, mais quand même pas à ce point. Non, ce qui se passe, c'est que les deux ados vont faire un pacte. Ils vont traverser cette nuit-là ensemble. Et au matin, ils verront s'ils ont encore envie de mourir ou pas. Et ils sauteront ensemble ou pas du tout.
Et Paris dans tout ça?
Alors Paris n'est pas le sujet central du livre, mais la ville va servir de théâtre à cette nuit extraordinaire. D'ailleurs, au début de chaque chapitre, on a une petite carte de Paris avec les arrondissements dessinés et on voit en plus foncé les arrondissements où se déroule l'action. Et Manon Fargeton nous emmène comme ça à Bastille, sous les ponts de la Seine, dans le métro, sur le périph', dans un concert punk à Pigalle. Bref, on voit beaucoup d'aspects de Paris. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman. On n'a pas une vision ni idéalisée, ni diabolisée de Paris et des Parisiens. Parce que ça peut être facile de dépeindre les Parisiens uniquement comme des cons prétentieux ou comme des artistes bohèmes. Et il y a sans doute des deux à Paris, mais pas que. Il y a surtout plein de gens, comme vous, comme moi, des vrais gens avec leur vie et leurs problèmes quotidiens. Et au travers des rencontres que font les personnages, on voit Paris sous tous les angles. Aussi bien la jeunesse dorée que la misère, la beauté comme la saleté, le racisme comme le cosmopolitisme. Bref, une grande ville, quoi, avec toutes ses contradictions.
Bon, je reformule quand même ma question, au cas où il y aurait des âmes sensibles parmi nos auditeurs. Est-ce qu'on doit s'attendre à une fin tragique?
Bon, je vais quand même pas spoiler, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours de cette nuit un peu hors du temps, Mina et Océan vont se lancer des défis de plus en plus fous, de plus en plus dangereux. Des défis qui pourraient bien justement leur coûter la vie. Le but, bien sûr, c'est de tester leur propre envie de mourir, mais à mesure que la nuit avance et qu'ils se connaissent un peu mieux, ils vont tenter, chacun à leur manière, de prouver à l'autre qu'il ferait bien de revenir sur sa décision. Et grâce aux points de vue qui alternent, on suit au plus près l'évolution de leur relation et des questions qu'ils se posent sur leur vie et surtout sur leur mort. Et grâce aux flashbacks qui parsèment le récit, on comprend mieux aussi le parcours et le passé des deux ados. Mina, elle dénote dans son lycée des beaux quartiers parisiens. Elle est fille d'immigrés, elle écoute de la musique commerciale, elle porte des chaussettes arc-en-ciel et des chaussures à paillettes. Océan, lui, vient d'un tout autre monde. Sa mère porte un nom à particules, son père fait carrière en politique, tout l'ennuie et il déteste tout le monde. Bref, ils n'ont strictement rien en commun. Alors comment Mina et Océan en sont arrivés là, à se retrouver au même moment sur le même toit parisien, avec la même envie de mourir? Eh bien, pour le découvrir, il vous faudra lire Nos vies en l'air.
Ah, mais attends, bon, j'ai déjà très envie de le lire, mais tu peux pas terminer comme ça avec ce suspense.
Ah bah si, c'est quand même le but. Mais bon, pour vous donner un peu plus d'infos et en même temps pour vous mettre encore plus l'eau à la bouche, je pourrais vous lire un extrait du roman, si ça vous dit.
Allez.
Donc, chapitre 1, elle. Tu vas sauter? Je tourne la tête, manque de perdre l'équilibre, m'accroupis. Vertige. Mes mains agrippent le rebord humide du toit. Je sens mon cœur cogner fort, si fort, comme s'il voulait se libérer de ma poitrine pour s'évanouir dans la nuit. Tandis que l'adrénaline reflue dans mes veines, je me laisse à nouveau happer par le ballet de la ville en contrebas. Bruines qui dansent dans la lumière des lampadaires, pinceaux des phares sur la chaussée détrempée, néons des enseignes, métro qui fuse sur le pont au-dessus du carrefour, silhouettes et parapluies pressées. Une heure que je les observe, funambule sur un fil de zinc, anticipant la chute. Ou l'impact. Parce que la chute, l'horreur de ne plus rien contrôler, le plaisir terrifiant de l'apesanteur, l'impuissance de me sentir aspirée malgré moi par une force qui me dépasse, je connais. Tu vas sauter? J'effleure l'intrus d'un regard impatient. Il ne doit pas être beaucoup plus âgé que moi, malgré sa chemise blanche et cette veste de costard qui lui donne l'air de s'être déguisé en adulte. Va-t'en, je souffle. S'il disparaît, tout rentrera dans l'ordre. Je poursuivrai la soirée comme je l'avais prévu.
Nos vies en l'air, de Manon Fargeton, c'est chez Rajo. Merci beaucoup Christelle. J'avais déjà très envie de lire ce roman, alors là, c'est bon. Et voilà, c'est maintenant l'heure de conclure. On se retrouve maintenant le 23 juin pour la dernière émission de la saison 2. Merci encore à Lucie Pierre-Apageau de nous avoir accordé cette interview entre deux dédicaces à Livre Paris. Merci à tous d'avoir préparé cette émission. Je vais conclure par une citation de Samantha Bailly de Nos âmes rebelles. Sonia se souvient de son impression de Paris l'été dernier lors de Japan Expo. Une ville grise, sale, comme surplombée par un couvercle. Mais la nuit habille la capitale, lui restaure sa poésie d'antan. La lueur dorée des réverbères, le faisceau lointain de la tour Eiffel, les jeux de lumière sur la Seine.